La une ce matin, c'est ce bras de fer politique entre le gouvernement et l'opposition. Accusation de sabotage économique d'un côté, bluff de l'autre. On parlera aussi de la visite de Catherine Chabot, de climat et bien sûr de notre nouvelle Miss Tahiti. Le journal de la rédaction présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Moïté Brotherson a accusé l'opposition de sabotage économique à des fins politiciennes.
Voilà son analyse du large rejet à l'Assemblée d'un collectif technique de report des crédits de l'année précédente, ce qui n'aurait dû être qu'une formalité puisque chaque année, Tarahoy doit valider ses reports, s'est transformé en bras de fer politique. L'opposition a parlé des réserves très confortables, des recettes fiscales exceptionnellement bonnes, mais pas grand-chose pour lutter contre la vie chère. Et ces projets de délibération ont donc été rejetés. Pour le président du pays, les élus Tavini, Tapula et Ahip vont empêcher le pays de payer ses prestataires. De nombreux chantiers sont en danger, y compris ceux des Jeux du Pacifique. La tenue même de Tahiti 2027 est menacée. Petit extrait du message Facebook du président du pays. Écoutez.
On est clairement dans un sabotage économique, plus qu'institutionnel. Je laisserai à ceux qui ont pris cette décision, surtout ceux qui l'ont pris alors qu'ils connaissent les rouages budgétaires qui ne peuvent pas venir encore prétendre que ce matelas existe et que le gouvernement refuse de s'en servir, alors que ce sont des sommes qui sont dues aux entreprises et qui du coup ne pourront pas être payées aux entreprises. Je leur laisserai la responsabilité en tout cas de leurs actes.
Complètement faux, répond l'opposition qui dément tout blocage budgétaire. Chez les autonomistes, on n'y va pas par quatre chemins. Moïté Brotherson bluff. On écoute son leader, Edouard Fritsch.
Moïté Brotherson fait peur à la population, mais c'est complètement faux. Il aurait dû s'organiser effectivement pour que les choses aillent mieux. Ce collectif n'étant qu'une copie conforme des engagements pris l'année dernière, on lui a dit non. Il y a d'autres urgences dans ce pays et il faut prévoir les remèdes pour réparer ce qui ne va pas. Mais monsieur n'était pas là, il aurait pu au moins avoir la délicatesse de se présenter à l'Assemblée vendredi matin pour venir justifier le collectif budgétaire.
Il s'agissait surtout pour les élus de l'Assemblée de créer un électrochoc pour Tepua Raouli Teritei et d'envoyer aussi un message fort au gouvernement pour Nicole Sanquer. On écoute la représentante AIP.
Le rejet de ce collectif est un signal qu'on envoie à M. Brotherson pour dire qu'il ne peut pas diriger seul. Il faut qu'il tienne compte de ce que les élus de l'Assemblée et de ce que la population aussi dit, puisqu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Donc, il a 10 jours pour revoir sa copie et revenir vers nous. On lui a demandé de baisser la pression fiscale. C'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire baisser le coût de la vie.
Nicole Sanquer qui voit chez Moïté Brotherson la même attitude que pour la réforme du RNS, faire peur plutôt que d'écouter les demandes de l'Assemblée. Le Tavini ne s'est pas exprimé sur ce nouvel épisode de la guerre des tranchées à l'Assemblée, une bataille qui emmène un peu plus le pays dans l'impasse politique.
Et pendant ce temps-là, la visite de Catherine Chabot continue.
La ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche a enchaîné les rencontres et elle a fait sa première annonce du déplacement, la création d'une chaire internationale de recherche sur les grands fonds marins en Polynésie française. L'État et l'Ifremer vont investir 300 millions de francs dans ce projet qui doit permettre de mieux comprendre la biodiversité profonde, réaliser un inventaire des fonds et comprendre aussi les risques d'une éventuelle exploitation minière. Elle a ensuite continué ses visites, Papeete, Raiatea, Moorea, auprès des institutions du pays, des élus locaux, des chercheurs ou des associations. Elle a assuré un engagement de l'État pour une accélération du développement de l'économie bleue et encouragé tout le monde à continuer à travailler.
En fin de compte, moi ça fait des années que je sais que je suis persuadée que la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée parce que nous sommes mobilisés, parce que la mer m'a appris aussi, mes aventures de mer m'ont appris, même quand j'ai navigué seule, la force du collectif. Je pense que ça fait des années que je constate la force du collectif. Et c'est incroyable comme vous l'incarnez.
Bluffée par les projets qui lui ont été présentés, la ministre en a profité pour annoncer cette bonne nouvelle.
Peut-être que pour les initiatives que vous soutenez, qu'on voit émerger, etc., qui vont permettre d'accélérer la compréhension et l'action, eh bien nous avons mobilisé la Caisse des dépôts biodiversité de manière à pouvoir financer aussi de la restauration des écosystèmes marins et côtiers. Je peux vous l'annoncer, les appels à projets qui seront lancés sont ouverts à la Polynésie française. Donc j'espère qu'on verra émerger plein d'autres projets l'année prochaine.
Voilà, de quoi avoir des financements pour des projets de restauration marins et côtiers. Catherine Chabot est attendue à la presqu'île aujourd'hui et au port de pêche avec les acteurs de la filière hauturière demain matin.
Vous écoutez le journal de Radio Inter, l'AFM, il est 7h05 et actualité sociale maintenant avec la FISAP qui a signé hier un protocole d'accord avec le gouvernement.
Oui, le syndicat de Mireille Duval menaçait d'entrer en grève dès ce matin à l'hôpital et à la direction de la santé. Il voulait des avancées de statut pour les petites catégories d'agents. Le préavis avait été déposé pour dénoncer la priorité aussi accordée par l'exécutif à la réforme du statut des praticiens hospitaliers. Cette réforme aura bien lieu, mais le gouvernement a donné des garanties sur les autres réformes aussi, notamment celle des auxiliaires de santé. Elle doit être présentée d'ailleurs au Conseil supérieur de la fonction publique en même temps que la réforme qui concerne les médecins.
Allez, on va parler climat à présent. Des conclusions de ce gros programme CLIPSA ont été présentées la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui nous attend ?
Et oui, la France sort de 10 jours de canicule intense. Et que va-t-il se passer en Polynésie française d'ici 2100 ? Ce programme CLIPSA a réuni des chercheurs pendant 5 ans pour donner les prévisions. Et ils ont été rendus publics la semaine dernière à Tahiti. Augmentation de la température de 2,3 degrés, plus de 200 jours par an, de fortes chaleurs les trois quarts de l'année, des canicules humides qui auront un impact sur les corps mais aussi les cultures. On écoute la géographe coordinatrice du projet CLIPSA, Fleur Vallée.
Donc quand on est dans un milieu plus humide, le corps a beaucoup de mal à s'adapter. Ça s'appelle le thermomètre mouillé. Pour le corps, c'est un stress thermique, c'est-à-dire qu'on arrive moins bien à transpirer. On a des difficultés à pouvoir refroidir le corps. Et donc refroidir le corps, ça veut dire les organes qui fonctionnent moins bien. Donc c'est vraiment sur le temps long. On peut le voir déjà dans les climats équatoriaux, dans différentes régions du monde. On a eu des canicules mortelles en Inde, des canicules mortelles à travers l'Afrique, par exemple. Et ça nous donne quand même un avant-goût de ce qui peut se passer à l'échelle de la Polynésie française.
Ce programme CLIPSA a aussi étudié les conséquences sur les cultures de tubercules. Résultat, l'instabilité de la rentabilité du taro va être importante. L'augmentation de la température va raccourcir les cycles de production et affecter leur rendement. Les cultures produiront moins bien, mais les agriculteurs réfléchissent et s'adaptent. Maya Leclerc, chercheuse anthropologue en savoir locaux sur la Polynésie.
C'est pas un problème égale une réflexion égale une solution. En fait, le changement climatique est abordé dans son intégralité et on le traite de la même manière qu'on traite l'économie de son exploitation. C'est un facteur. C'est la même chose pour les solutions, c'est-à-dire on ne met pas en place une solution d'adaptation en se disant il va pleuvoir plus donc je vais faire de telle manière, mais on réfléchit à tout un tas de paramètres. Tiens, c'est l'occasion de tester une nouvelle variété, c'est l'occasion de se remettre au vivrier. On a vu certains agriculteurs ici sur Tahiti et Moorea qui se remettaient à mettre du vivrier parce qu'en fait le vivrier est légèrement moins exposé au phénomène météorologique.
Les scientifiques auteurs de ces conclusions pour CLIPSA espèrent maintenant que les élus s'emparent de ces prévisions et proposent des actions concrètes d'adaptation dans leur politique publique.
On continue déjà la recherche parce que c'est très important de savoir vers où on va, que ce soit sur le domaine scientifique mais aussi le domaine technique. Il faut savoir dans CLIPSA, on a des assistances techniques dédiées dans les différents territoires. En Polynésie, ça se traduit par un bureau d'études qui est Kaora. Il travaille en fait sur le volet adaptation du plan climat polynésien. Donc l'objectif, c'est d'inclure tous les résultats dans ces politiques publiques actuelles ou aussi sectorielles pour pouvoir alimenter et essayer de proposer des mesures d'action concrètes ou en tout cas des pistes de solutions en intégrant donc les dernières connaissances scientifiques inédites. Et la deuxième chose, ce serait bah, évidemment d'ouvrir sur les secteurs non étudiés ou même travailler à l'intérieur de l'agriculture parce qu'on a travaillé que sur les tubercules tropicaux, mais il y a aussi les autres variétés, les autres espèces, travailler sur les nuisibles aussi. Donc oui, il y a fort à faire.
Oui, cette interview est à revoir en intégralité sur notre site radio1.pf et nos pages Facebook.
À 7h08 dans ce journal, l'actualité du week-end, eh bien, c'est l'élection de Miss Tahiti 2026. Léa Diar est notre nouvelle reine de beauté.
Et beaucoup de ses proches avaient fait le déplacement depuis Moorea pour son sacre. La danseuse et professeure de Hori s'est dite heureuse d'avoir pu se lâcher et savourer la soirée d'élection vendredi soir. Écoutez.
Eh bien, de nature, j'aime la scène, c'est quelque chose qui m'anime. Et aujourd'hui, c'était la scène de Miss Tahiti. C'est vrai qu'un sentiment différent, mais je me suis lâchée. C'était le mot d'ordre. Sois confiante et donne tout.
Elle promet maintenant de porter la culture polynésienne sur la scène nationale de Miss France, une élection où elle dit avoir la chance de pouvoir profiter de l'expérience de Hinaopoko Devez.
Bien évidemment, mais j'en suis consciente depuis le début de l'aventure. Je passe quand même après Hinaopoko Devez. Mais pour moi, c'est tout aussi bien. Je savais que je devais y aller pour cette élection de 2026. Et j'y suis. J'ai en plus eu la couronne. Donc je suis très contente. J'ai de la chance puisqu'elle est Miss Tahiti et Miss France. Donc ça me fait deux expériences qui sont complémentaires et qui vont pouvoir m'aider durant ce règne.
Inao Poco-Deves, qui a d'ailleurs été saluée par la présidente du comité Miss Tahiti, Leyana Faugera.
Elle a juste été incroyable. Digne ambassadrice à la hauteur de la tâche, de la mission qui lui a été confiée, toujours encore maintenant, puisqu'elle est encore mission jusqu'au mois de décembre. Donc franchement, non. Un grand bravo à Inao Poco. Elle nous a rendu fiers. Elle continue à nous rendre fiers, que ce soit dans ses interventions auprès des médias, à la télé, lors des élections régionales, tout le temps. Elle a une belle personnalité, elle a une belle âme et elle est très belle physiquement, bien sûr.
Voilà, une belle âme et une très belle femme qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure en direct sur Radio 1, ce sera à partir de 8h. Et puis il faut donner tout le podium de cette élection 2026. Orama Molimar et Miss Heiva, Eimeri Uri, deuxième dauphine, et Tumara Tapi, première dauphine. Et puis si vous voulez voir l'ambiance et des photos, eh bien allez sur notre site radio1.pf.
Allez, on termine, Lucie, avec ces nouvelles de nos voisins calédoniens.
Où il y avait une élection aussi en Nouvelle-Calédonie, mais beaucoup plus sérieuse. Hier, plus de 190 000 Calédoniens étaient appelés aux urnes pour renouveler les 3 assemblées de province et le Congrès. Dans le Sud, Sonia Bakès et la liste d'Union loyaliste progressent et remportent plus de 50% des voix. En province Nord, l'Uni de Paul Néaoutine est devancé par la liste UCFLNKS dans une assemblée sans majorité. Et des alliances aussi devront être recherchées dans les îles où Nations autochtones et l'UCFLNKS sont au coude à coude. Des résultats marqués par une forte abstention et qui ne permettent pas de dégager une majorité claire au Congrès. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup, Lucie, à tout